10. Quelques mois à peine s'étaient écoulés depuis que Pellerat avait fait la connaissance de Trévise, et pour la première fois de sa vie quittait le sol de Terminus. Jusque-là, durant son plus que demi-siècle, galactique standard d'existence, il n'avait été qu'un rampant. Dans son esprit, il était dans l'espace de ces quelques mois devenu un vieux loup du cosmos. Depuis l'espace, il avait contemplé trois planètes, Terminus elle-même, Seychelles et Gaïa. Et sur l'écran, voici qu'il en découvrait une quatrième, bien que par l'intermédiaire d'un télescope piloté par ordinateur. Cette quatrième planète était Comporellon. Et de nouveau, pour la quatrième fois, il se sentait vaguement déçu. Quelque part, il persistait à considérer que contempler depuis l'espace un monde habitable signifiait découvrir le contour de ces continents entourés par les mers, ou, s'il s'agissait d'un monde désertique, le contour de ces lacs entourés par la terre. Or, ce n'était jamais le cas. Si un monde était habitable, il possédait une atmosphère en même temps qu'une hydrosphère. Et s'il avait à la fois de l'air et de l'eau, il avait des nuages. Et s'il avait des nuages, la vue était compromise. Et donc, une fois encore, Pellerat se retrouva en train de lorgner de blancs tourbillons avec, à l'occasion, une percée de bleu pâle ou de brun rouille. Il se demanda, maussade, si quiconque était capable d'identifier une planète à partir d'une simple diapo prise, mettons, à 300 000 km de distance. Comment diable distinguer un tourbillon de nuages d'un autre? Joie considéra Pellerat non sans une certaine inquiétude. Qu'y a-t-il, Pell? Vous semblez malheureux. Je trouve que, vu de l'espace, toutes les planètes se ressemblent. Et après, Janov, intervint Trévise. C'est bien pareil avec toutes les côtes de Terminus lorsqu'elles apparaissent à l'horizon. À moins que vous ne sachiez au juste ce que vous cherchez, un pic montagneux précis ou bien au large un îlot à la forme caractéristique.
« Je veux bien, » dit Pellerat, manifestement mécontent.
« Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans une masse de nuages en perpétuel mouvement? Et à supposer que vous essayiez, avant même d'avoir pu décider, vous avez toutes les chances de vous retrouver du côté obscur. »
« Écoutez-moi un peu plus attentivement, Janov. Si vous suivez le contour des nuages, vous verrez qu'ils tendent à former une structure qui fait le tour de la planète, centrée autour d'un point grossièrement situé à l'un des pôles.
« Lequel ?»
demanda Joie intéressée.
« Puisque, relativement à nous, la planète tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, nous sommes par définition en train de contempler son pôle sud. Puisque le centre de rotation semble situé à une quinzaine de degrés du terminateur, la limite entre face éclairée et face obscure, et que l'axe de la planète est incliné de 21 degrés par rapport à la perpendiculaire à son plan de révolution, nous sommes soit au milieu du printemps, soit au milieu de l'été, selon que le pôle s'éloigne ou s'approche du terminateur. L'ordinateur pourrait calculer son orbite et me fournir le renseignement en un rien de temps si je lui demandais. La capitale étant située dans l'hémisphère nord, on est donc là-bas soit au milieu de l'automne, soit en plein hiver.
Froncement de sourcils de Pellerat. Vous pouvez dire tout ça? Il fixait la couche de nuages, comme si elle pouvait ou devait lui dire maintenant quelque chose. Mais bien entendu, il n'en était rien.
Pas seulement ça, répondit Trévise. Mais si vous examinez les régions polaires, vous constaterez qu'il n'y a pas de déchirure dans la couche nuageuse, comme on en voit ailleurs. En vérité, il y en a bien, mais à travers les déchirures, on aperçoit de la glace, ce qui donne du blanc sur blanc.
« Ah !» fit Pellerat. « Je suppose qu'on peut s'y attendre au pôle ?»«
Des planètes habitables, certainement. Les planètes sans vie pourraient être dépourvues d'air ou d'eau, ou présenter certains stigmates révélant que les nuages ne sont pas des nuages d'eau ou que la glace n'est pas de la glace d'eau. Cette planète ne présentant pas de tels stigmates, nous savons donc que nous sommes en train de contempler des nuages et de la glace d'eau. Le point suivant que l'on peut remarquer
et la taille du secteur blanc continu du côté éclairé du Terminator. Et pour un œil expérimenté, celui-ci apparaît immédiatement plus étendu que la moyenne. Qui plus est, il est possible de déceler une certaine tonalité orangée, certes tout à fait discrète, à la lumière réfléchie, indiquant que le soleil de Comporellon est légèrement plus froid que celui de Terminus. Alors que Comporellon est plus proche de son soleil que Terminus ne l'est du sien, elle ne l'est toutefois pas assez pour compenser la température plus faible de son étoile. Par conséquent, pour un monde habité, il s'agit d'un monde froid.
Vous lisez ça comme un film, mon brave compagnon,
nota Pellerat admiratif. Ne soyez pas trop impressionné, dit Trévise avec un sourire affectueux. L'ordinateur m'a fourni les statistiques applicables à cette planète, y compris sa température générale légèrement inférieure à la moyenne. Il est aisé de déduire quelque chose que l'on sait déjà. En fait, Comporellon se trouve à la lisière d'une période glaciaire, et elle en connaîtrait une si la configuration de ses continents était plus propice à une glaciation.
Joie se mordit la lèvre inférieure. Je n'aime pas un monde froid.
Nous avons des vêtements chauds, remarqua Trévise.
Ça n'a guère d'importance. L'homme n'est pas vraiment adapté au climat froid. Nous n'avons pas d'épaisses toisons de poils ou de plumes, pas de couches de graisse sous-cutanée. Pour une planète, avoir un climat froid semble dénoter une certaine indifférence au bien-être de ses propres éléments.
Gaïa est-elle une planète uniformément tempérée? S'enquit Trévise.
En majorité, oui. Il y a quelques zones froides pour les plantes et les animaux acclimatés au froid et quelques secteurs chauds pour les plantes et animaux habitués à la chaleur, mais la plus grande partie est uniformément tempérée, évitant les écarts inconfortables dans l'un et l'autre sens pour ceux qui se situent entre, êtres humains compris, bien entendu.
Bien entendu. Tous les éléments de Gaïa sont vivants et égaux à ce titre, mais certains, tels les êtres humains, sont manifestement plus égaux que d'autres.
Ne soyez pas stupidement sarcastique, rétorqua Joie avec un rien de hargne. Le niveau de conscience et l'intensité de perception ont leur rôle. Un être humain constitue une portion de Gaïa plus importante qu'un rocher de même poids, et les propriétés comme les fonctions de Gaïa dans son ensemble sont nécessairement pondérées en faveur de l'être humain. Pas autant que sur vos mondes d'Isola, toutefois. Qui plus est, il y a des moments où la pondération s'effectue dans d'autres directions, lorsque l'ensemble de Gaïa l'exige. Elle pourrait même, à de longs intervalles, basculer en faveur de l'écorce rocheuse. Et cela, également, exige de l'attention, faute de quoi tous les éléments de Gaïa pourraient en pâtir. Personne ne voudrait d'une éruption volcanique inutile, n'est-ce pas?
Non, dit Trévise. Pas d'éruption inutile.
Vous n'avez pas l'air très impressionné, hein?
Écoutez, dit Trévise, nous avons des mondes qui sont plus froids que la moyenne et d'autres plus chauds. Des mondes qui sont en majorité composés de forêts tropicales et d'autres de vastes savanes. Il n'y a pas deux mondes semblables, et chacun d'eux est le monde natal de ceux qui y sont acclimatés. Je suis acclimaté à la relative douceur de Terminus. Nous l'avons en fait apprivoisé jusqu'à une modération quasi gaïenne. Mais j'apprécie de m'en écarter, du moins à titre temporaire, et de découvrir quelque chose d'autre. Ce que nous avons, Joie, et que Gaïa n'a pas, c'est la variété. Si Gaïa s'étend sur toute la galaxie, chaque planète de la galaxie devra-t-elle obligatoirement devenir tempérée? La similitude serait insupportable.
S'il en est ainsi, et si la variété semble désirable, eh bien, la variété sera maintenue.
À titre de cadeau du comité central, pour ainsi dire? Dit Trévise sèchement. Et en concédant le moins possible, j'aimerais encore mieux laisser faire la nature.
Mais vous non plus. Vous n'avez pas laissé faire la nature. Chaque planète habitable de la galaxie a été modifiée. Chacune d'elles a été découverte dans un état de nature qui était inconfortable pour l'humanité et chacune d'elles modifiée pour la rendre aussi tempérée que possible. si la présente planète est froide, je suis certaine que c'est parce que ses habitants ont été incapables de la chauffer plus sans engager de dépenses inacceptables. Et même ainsi, les portions qu'ils habitent effectivement, nous pouvons être certains qu'elles sont artificiellement chauffées pour être tempérées. Alors, inutile de ramener votre vertueuse condescendance sur le respect de la nature.
C'est Gaïa qui parle, je suppose.
Je parle toujours au nom de Gaïa. Je suis Gaïa.
Alors si Gaïa est si certaine de sa supériorité, pourquoi avoir eu besoin de ma décision? Pourquoi ne pas avoir décidé sans moi?
Joa marqua une pause, comme pour s'exprimer de manière plus réfléchie. Puis elle répondit.
Parce qu'il n'est pas sage de trop se fier à soi. Nous voyons naturellement nos qualités d'un œil plus net que nous voyons nos défauts. Nous sommes anxieux de faire ce qui est bien, pas nécessairement ce qui nous paraît bien, mais ce qui est bien, objectivement, si une telle notion de bien objectif peut exister. Vous semblez représenter ce qui se rapprocherait le plus de cette idée du bien objectif, et c'est pourquoi nous nous laissons guider par vous.
Un bien tellement objectif, constata Trévise avec tristesse, que je ne comprends pas moi-même ma propre décision. Et on cherche la justification.
Vous la trouverez, dit Joie.
Je l'espère.
À vrai dire, vieux compagnon, intervint Pélorat, il me semble que ce récent échange vient d'être assez rondement emporté par Joie. Pourquoi ne pas reconnaître le fait que ces arguments justifient bien votre décision que Gaïa est la vague porteuse d'avenir pour l'humanité?
Parce que, dit Trévise d'une voix rauque, j'ignorais encore ces arguments à l'époque où j'ai pris ma décision. Je ne connaissais aucun de ces détails concernant Gaïa. Quelque chose d'autre m'a influencé, inconsciemment du moins. Une chose qui ne dépend pas de Gaïa en détail, mais doit être plus fondamentale. C'est là ce que je dois retrouver.
Pélorat tendit une main apaisante.
Ne vous mettez pas en colère, Golan.
Je ne suis pas en colère.
Je suis juste soumis à une tension assez insupportable. Je ne veux pas être le point focal de la galaxie.
Je ne vous le reprocherai pas, Trévise, dit Joie. Et je suis sincèrement désolé que nos propres dispositions vous aient d'une certaine manière forcé à assumer ce rôle. Mais quand devons-nous atterrir sur Comporelon?
Dans 3 jours, dit Trévise. Et seulement après un arrêt à l'une des stations d'entrée en orbite autour de la planète.
Combien de temps faut-il en moyenne pour franchir un poste d'entrée? S'enquit Pélorat.
Trévise haussa les épaules. Cela dépend du nombre de vaisseaux qui approchent la planète, du nombre de stations d'entrée, et par-dessus tout des règles particulières pour permettre ou refuser l'admission. Ces règles changent de temps à autre.
Indignation de Pélorat.
Que voulez-vous dire par « refuser l'admission » Comment peut-on refuser l'entrée à des citoyens de la Fondation? Comporelon ne fait-elle pas partie des dominions de la Fondation?
Eh bien, oui et non. Il y a une assez délicate affaire d'argutie juridique sur ce point. Et je ne sais pas au juste comment Comporelon interprète les textes. Je suppose que le risque existe qu'on nous refuse l'admission, mais je ne crois pas qu'il soit bien grand.
Mais si on nous la refuse, que faisons-nous?
Je ne sais pas bien, dit Trévise. Attendons de voir ce qui arrive avant de nous fatiguer à bâtir des plans de remplacement.